Chapitre 15. Nouveaux renseignements. Il y avait deux personnes qui touchaient au traître de très près. Son frère, qui l'avait renié, et sa sœur. Le poids du crime qui venait d'être commis les accablait peut-être plus que la victime de ce sanglant outrage. Le monde, dans sa cruelle curiosité, avait eu pourtant cela de bon pour M. Dombey qu'il lui avait donné du ressort pour courir à la poursuite du coupable, à la vengeance. Le monde avait allumé son courroux, aiguillonné son orgueil, donné à l'unique pensée de sa vie un nouvel intérêt et soulagé le poids de sa colère, l'unique objet aujourd'hui de ses facultés intellectuelles. L'inflexibilité de sa nature implacable, son impénétrable roideur, son humour sombre et morose, le sentiment exagéré de son importance personnelle, son empressement jaloux à réparer la moindre atteinte faite à sa dignité officielle, était comme autant de petits ruisseaux aboutissant, en ce moment, à un fleuve immense qui semblait l'emporter dans son courant rapide. La colère impétueuse, poussée jusqu'au délire, eût été moins à redouter que ne l'était en ce moment la sinistre taciturnité de M. Dombey, préoccupé de son projet. Une bête sauvage se serait plus facilement apprivoisée que ce grave gentleman dont la roide cravate ne faisait pas un pli. Ainsi donc, le plaisir qu'il éprouvait à méditer sa vengeance était un changement, et l'incertitude du lieu de retraite où il devait atteindre son rival donnait à son chagrin un autre cours qui en diminuait la force. Mais le frère et la sœur de son perfide ami n'avaient rien de pareil pour distraire leur douleur. Tout dans l'histoire de leur vie, le passé, le présent, aggravait encore son crime à leurs yeux. La sœur pouvait se dire avec tristesse qu'il aurait peut-être évité la faute qu'il avait commise s'il avait gardé près de lui sa compagne et son ami. Si elle le pensait, c'était sans regret, du moins pour ce qu'elle avait fait sans le moindre scrupule sur les devoirs qu'elle remplissait, sans chercher à donner plus de prix, plus de valeur à son sacrifice. Mais quand cette pensée traversait aussi le cœur de son frère repentant, les reproches qu'il s'adressait étaient bien vifs et bien cuisants. Il ne songeait pas à condamner le coupable. Il s'accusait lui-même, se lamentait sur ses propres torts, et ne pensait qu'à la misère qu'il faisait partager à sa sœur, dont la présence était à la fois sa consolation et son remords. Le jour même où se passait la scène décrite dans le chapitre précédent, et où le monde de M. Dombey n'était plus occupé que de l'enlèvement de sa femme, voilà que de la fenêtre de la petite chambre, où déjeunaient le frère et la sœur, on put voir un homme s'avancer vers le petit portail. C'était Perch, l'homme de peine. « Je suis parti de Ball's Pond de bonne heure, » dit M. Perch, regardant un air de mystère dans la chambre, et s'arrêtant à la porte à essuyer sur le paillasson ses souliers qui n'étaient pas crottés, pour exécuter les ordres que j'ai reçus hier au soir. « J'étais chargé de vous remettre un billet ce matin, avant votre départ, M. Carker. » « Il y a bien déjà une bonne heure et demie que je devrais être ici, » dit M. Perch d'un ton humble, sans l'inquiétude que m'a donnée Mme Perch. « Vous me croirez, si vous voulez, mais j'ai cru la perdre cette nuit à 5 reprises différentes. »« Quoi ? Votre femme est donc dangereusement malade ?» dit Henriette. « Dame, voyez-vous, » dit M. Perch, qui se retourna d'abord pour fermer soigneusement la porte, « elle prend si à cœur ce qui vient d'arriver à la maison, mademoiselle. Elle a les nerfs si délicats, si susceptibles. Ce n'est pas que les nerfs les plus solides n'ont qu'à bien se tenir pour n'être pas ébranlés de ce coup-là. Vous n'êtes pas sans l'éprouver vous-même, que je pense. » Henriette comprima un soupir et jeta un coup d'œil à son frère. « Je m'en ressens bien, moi, dans ma petite sphère, » dit M. Perch en secouant la tête. « Je m'en ressens comme jamais je ne l'aurais cru. Il me semble que je suis entre deux vins. Tous les matins, je me réveille comme si j'avais bu un coup de trop la veille. » Aussi, dit M. Perch en secouant de nouveau la tête, avec un son de voix flûtée, je puis apprécier les sentiments de ceux qui se trouvent plus particulièrement engagés dans cette pénible affaire. Ici, M. Perch attendit qu'on lui confiât quelques secrets. Voyant qu'on ne lui confiait rien du tout, il se mit la main sur la bouche et toussa. Mais il n'en obtint pas plus de succès. Alors il toussa derrière son chapeau. Le chapeau ne produisant pas non plus de résultat, il le déposa à terre et fouilla dans la poche de son habit pour en retirer la lettre. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas de réponse, dit M. Punch avec un aimable sourire. Cependant, vous serez peut-être assez bon pour jeter les yeux dessus. John Carker brisa le cachet. C'était celui de M. Dombey. Lut le contenu de la lettre, qui était très courte, et répondit « Non, il n'y a pas de réponse. »« Alors, mademoiselle, bien le bonjour, » dit M. Punch, faisant un pas vers la porte. « J'espère que vous ne vous tourmenterez pas plus qu'il ne faut de ce triste événement. » « Les journaux, » dit M. Punch, en faisant de nouveau deux pas vers la porte et en s'adressant d'un air de plus en plus mystérieux aux frères et à la sœur, « les journaux sont plus avides que vous ne croyez de nouvelles sur l'événement. » Pas plus tard qu'hier soir, un des rédacteurs du journal du dimanche, en habit bleu et en chapeau blanc, qui déjà m'avait offert de l'argent, je vous laisse à penser si je l'ai accepté, rôdait dans notre passage à 8h20. Je le vois encore, son œil braqué sur le trou de la serrure, vous savez, la serrure de sûreté. « Il y en a un autre, » dit M. Punch, en habit de militaire, qui passe toute la journée du dimanche dans la salle à manger des armes du roi. La semaine dernière, il m'est arrivé d'y laisser tomber un petit mot, et le lendemain matin, qui était dimanche, j'ai vu mon petit mot bel et bien imprimé en lettres moulées, ma foi. » M. Punch remit la main dans la poche de son habit, comme pour en tirer le sudit article du journal. Mais comme on ne paraissait pas curieux de le voir, il retira à la place ses gants de castor, prit son chapeau et sortit. La journée n'était pas encore bien avancée que déjà M. Punch avait raconté à plusieurs reprises, aux armes du roi et ailleurs, comment Mademoiselle Carker, éclatant en sanglots, lui avait pris les deux mains en lui disant « Oh, mon cher Punch, quelle consolation pour moi que de vous voir !» Et aussi comment M. John Carker lui avait dit d'un ton de voix terrible « Punch, je le renie. Ne me parlez jamais de lui comme de mon frère. » « Cher John, » dit Henriette, quand ils furent seuls, et après quelques instants de profond silence, « il y a de mauvaises nouvelles dans cette lettre. »« Oui, mais c'était prévu. J'ai vu hier celui qui l'a écrite. »«
Celui qui l'a écrite ?»«
Monsieur Dombey. Il a traversé deux fois le bureau pendant que j'y étais. » J'aurais pu éviter la chose, peut-être, mais pas longtemps. Je comprends combien il était naturel que ma présence l'offusquât. Je le sentais moi-même. Il ne vous en a pas parlé ?
Non, il ne m'a rien dit. Mais j'ai vu son regard s'arrêter sur moi un instant, et depuis lors, je m'attendais à ce qui m'arriverait, à ce qui m'est arrivé. Il me remercie.
Henriette fit tout ce qu'elle put pour ne pas laisser paraître trop d'émotion, trop de désespoir. Cependant, c'était une triste nouvelle, pour bien des raisons. « Je n'ai pas besoin de vous dire, » dit John Carker, lisant tout haut la lettre, « pourquoi maintenant votre nom, malgré la position subalterne que vous occupez chez moi, serait désagréable à mon oreille, et combien je souffrirais d'avoir tous les jours sous les yeux une personne qui le porte. À dater de ce jour, vous ne ferez plus partie de la maison. » Et je vous invite à ne chercher en aucune façon à renouer des rapports avec moi ou avec mes employés. À cette lettre est jointe une somme qui paye et au-delà mes appointements. C'est mon congé définitif. Dieu sait, Henriette, que nous devons trouver ce congé bien doux et bien poli après tout ce qui s'est passé.
Sans doute, s'il est doux et poli de vous punir, John, pour les méfaits d'un autre, répondit-elle avec bonté.
« Nous sommes pour lui une race maudite, » dit John Carker. « Il a raison de vouloir se débarrasser de l'importunité de notre nom et de croire que le sang qui coule dans nos veines est un sang vicieux et corrompu. Je le croirais aussi, moi, si vous n'étiez pas ma sœur, chère Henriette. » « Frère, ne parlez pas ainsi. Si, comme vous le dites, et comme je crois que vous le pensez, vous avez de bonnes raisons pour m'aimer, quoique je ne m'y sente aucun autre droit que ma propre affection, que je ne vous entende plus prononcer de si cruelles paroles. » Il se couvrit le visage de ses deux mains, mais quand elle s'approcha de lui, il la laissa en prendre une dans les siennes. « Après tant d'années, c'est une triste séparation, je le sais, » dit sa sœur, « et la cause en est bien pénible pour tous deux. Mais il nous faut vivre, et nous devons songer au parti que nous avons à prendre. Oui, oui, il le faut. Sans nous laisser abattre. « Nous devons être fiers et non pas humiliés, John, de lutter chacun de notre côté. » Le sourire était sur ses lèvres pendant qu'elle l'embrassait et le suppliait d'avoir bon courage.
Ô chère sœur, vous vous êtes tenue unie de votre plein gré à un homme ruiné, dont la réputation est souillée, qui n'a pas d'amis et qui vous prive d'amis vous-même.
John, dit-elle, en lui mettant vivement la main sur les lèvres, par amour pour moi, en souvenir de notre longue union,
il se tut. Maintenant, dites-moi, mon ami, reprit-elle en s'asseyant avec calme auprès de lui,
je m'étais, comme vous, attendu à ce qui arrive. Quand j'y ai pensé, que j'ai redouté cet événement, je m'y suis préparé le mieux possible, et j'ai résolu de vous dire, quand le moment serait venu, que je vous ai caché quelque chose et que nous avons un ami.
Quel est le nom de notre ami, Henriette ? Dit-il avec un triste sourire.
Je ne le sais pas, mais il m'a fait une fois les plus vives protestations d'amitié et m'a parlé avec chaleur de son désir de nous être utile. Depuis ce jour, je crois en lui.
Henriette ! S'écria son frère, tout surpris, où demeure cet ami ?
Je ne le sais pas non plus, répondit-elle, mais il nous connaît tous deux. Il sait notre histoire, toute notre petite histoire, John. C'est pourquoi, d'après son avis même, j'ai gardé le secret de sa visite, dans la crainte que vous ne fussiez contrarié qu'il fût venu ici. Ici même, dans cette chambre, une fois.
Quel homme est-ce ?
Il n'est pas jeune, il a des cheveux gris, et sera bientôt tout blanc, mais il est généreux, franc et bon, j'en suis sûr.
Et vous ne l'avez vu qu'une fois, Henriette ?
Dans cette chambre, une seule fois, dit sa sœur, dont la joue se couvrit légèrement d'une rougeur passagère. Mais pendant qu'il était là, il m'a prié de me montrer à lui, une fois par semaine, quand il passerait, pour lui prouver que nous nous portons bien et que nous continuons à n'avoir pas besoin de ses offres de service. Car je lui ai dit, quand il m'a offert de venir à notre secours, c'était là l'objet de sa visite, je lui ai dit que nous ne manquions de rien. Et une fois la semaine, depuis cette entrevue, et toujours le même jour et à la même heure, il a passé sous nos fenêtres, toujours à pied, toujours allant dans la même direction du côté de Londres. Jamais il ne s'est arrêté que le temps de me saluer et de me faire de la main un signe amical comme un protecteur fidèle. Il m'avait fait cette promesse en me proposant ces singulières entrevues, et il l'a tenue si fidèlement, d'une manière si honnête, que si j'eusse jamais éprouvé la moindre gêne à l'idée de ce rendez-vous, et cela ne pouvait pas être, en présence de tant de générosité et de franchise, ce trouble n'aurait pas été de longue durée. J'étais heureuse, au contraire, chaque fois que le jour approchait. Lundi dernier, le premier depuis le terrible événement, je ne l'ai pas vu, et je me suis demandé si son absence ne se rattachait pas à ce qui s'était passé.
« Comment cela ? » demanda son frère.
« Je ne sais. C'est une idée qui m'est venue. Je n'ai pas cherché à éclaircir le fait. Je suis sûr qu'il reviendra. Ce jour-là, mon cher John, permettez-moi de lui dire que je vous ai parlé et laissez-moi vous mettre en présence l'un de l'autre. Certainement, il nous aidera à trouver de l'occupation. Il semblait désirer faire quelque chose pour rendre ma vie et la vôtre plus douces. Je lui ai promis que si jamais nous avions besoin d'un ami, je me souviendrai de lui. Son nom alors ne sera plus pour nous un secret.
Henriette, dit son frère, qui avait écouté avec la plus grande attention, dépeignez-moi cet étranger. Il est impossible que je ne connaisse pas un homme qui me connaît si bien.
Sa sœur lui peignit d'une manière aussi frappante que possible les traits, la taille et les vêtements de l'inconnu. Mais John Carker, soit qu'il ne connût pas l'original, soit que le signalement donné ne fût pas exact, soit qu'enfin qu'il fût trop absorbé par ses pensées, pendant qu'il se promenait à grands pas dans la chambre, ne put reconnaître le portrait qu'elle lui traça. Cependant, il fut convenu entre eux qu'il verrait l'original la première fois qu'il se présenterait. Ceci conclu, la sœur se remit à ses travaux domestiques, le cœur plus léger, et le ci-devant subalterne de la maison d'Ombay, le subalterne aux cheveux gris, profita du premier jour d'une liberté qu'il n'avait pas demandée pour travailler au jardin. La soirée était avancée, et le frère lisait tout haut pendant que la sœur faisait courir son aiguille, quand ils furent interrompus par un coup frappé à la porte. La vague inquiétude, l'effroi qu'ils éprouvaient de la fuite de leur frère, les fit frissonner à ce bruit inaccoutumé. Carker alla à la porte pendant que la sœur, assise à sa place, prêtait une oreille inquiète.
Elle entendit quelqu'un lui parler. Il répondit et parut surpris. Après avoir échangé quelques mots, elle vit son frère rentrer dans la chambre avec une autre personne. « Henriette, dit son frère, en introduisant l'étranger, qui venait les visiter à une heure si avancée et en parlant à voix basse, « Monsieur Morfin, le gentleman qui est resté si longtemps dans la maison de Monsieur Dombey avec James. » Sa sœur recula, comme s'il fût entré un fantôme. Sur le seuil était l'ami inconnu avec ses cheveux gris, sa figure ouverte, son large front, ses yeux si doux, cet ami qu'elle avait tenu si longtemps caché à son frère. « John, dit-elle d'une voix tremblante, c'est l'inconnu dont je vous ai parlé aujourd'hui. L'inconnu se trouve tiré d'un grand embarras, Miss Henriette, dit le gentleman en entrant à l'heure, car il s'était arrêté dans le corridor. En venant ici, j'ai cherché tout le long du chemin comment et de quelle façon je pourrais expliquer mes visites, et je ne savais comment faire. Monsieur John, je ne suis pas tout à fait étranger ici. Vous avez été au comble de la surprise en me voyant tout à l'heure à votre porte. Vous êtes peut-être encore plus surpris maintenant. Mais quoi, il n'y a rien dans tout cela de bien extraordinaire. Si nous n'étions de vraies bêtes d'habitude, nous n'aurions pas lieu de nous étonner si souvent. » En même temps, il avait salué Henriette de ce même air franc et respectueux qu'elle se rappelait si bien, et s'étant assis auprès d'elle, il avait ôté ses gants et les avait jetés dans son chapeau sur la table. « Il n'est pas étonnant, Monsieur John, dit-il, que j'aie eu le désir de connaître votre sœur et que j'aie satisfait comme j'ai pu ma curiosité. Quant à la régularité de mes visites depuis, Miss Henriette a dû vous en parler, il n'y a rien de bien surprenant. Je m'y suis habitué, nous sommes des bêtes d'habitude, vous savez. » Il mit ses mains dans ses poches, se renversa sur sa chaise et regarda le frère et la sœur comme s'il eût éprouvé un vif intérêt à les voir tous deux réunis. Puis il reprit avec une sorte de rêverie fiévreuse. « C'est par suite de la même habitude que plusieurs d'entre nous, capables de meilleures choses, se complaisent dans un orgueil, dans un entêtement du diable. Que d'autres se complaisent et s'enfoncent dans l'infamie, que beaucoup restent indifférents. C'est par suite de l'habitude que nous nous endurcissons chaque jour davantage comme des statues, et que suivant la nature de l'argile dont nous sommes formés, nous devenons susceptibles, comme des statues, de nouvelles impressions, de nouveaux sentiments. Jugez, John, de l'influence qu'a eue sur moi l'habitude. Depuis bien des années, depuis tant d'années que je ne m'en souviens plus, j'ai joué mon petit rôle. J'ai pris ma part bien marquée dans la maison Dombey. J'y ai vu votre frère, qui vient de prouver qu'il n'est qu'un misérable. Votre sœur me pardonnera d'être obligée d'en parler ainsi. J'ai vu votre frère étendre de plus en plus son influence jusqu'au moment où les affaires et le maître de la maison sont devenus pour lui un jouet. Et vous, je vous ai vu travailler chaque jour dans l'ombre devant votre pupitre. Pour moi, je m'occupais tranquillement de ma besogne, heureux de n'être troublé par rien de ce qui m'entourait. Je laissais tout se faire autour de moi chaque jour, sans m'occuper de rien, comme une vraie machine, toujours par habitude. Je croyais que tout ce qui se faisait était bien fait. Mes mercredis soirs revenaient régulièrement, nos quatuors se terminaient régulièrement, mon violoncelle gardait bien l'accord, et rien n'allait de travers dans mon monde. S'il se faisait autour de moi du bien, du mal, je ne m'en occupais pas. « Je puis vous assurer, monsieur, dit John Carker, que pendant tout ce temps vous avez été dans la maison plus aimé et plus respecté que qui que ce soit. »« Bah, répondit l'autre, si j'étais bon enfant et d'un caractère facile, c'était par habitude. Cela plaisait au gérant, cela plaisait à l'homme qu'il gouvernait, et cela me convenait à moi par-dessus tout. Je faisais mon devoir sans les flatter ni l'un ni l'autre, et j'étais heureux d'occuper une place où je n'avais à flatter personne. » J'aurais continué à vivre ainsi jusqu'à présent si le cabinet que j'occupe n'avait eu une cloison très mince. Vous pouvez dire à votre sœur que mon cabinet n'était séparé de celui du gérant que par une cloison. C'étaient deux pièces attenantes, qui n'en avaient formé qu'une peut-être dans l'origine, et qui se trouvaient séparées, comme l'explique M. Morfin, dit John en le regardant pour avoir la fin de son explication. J'ai sifflé, chanté, joué à plein jeu la sonate tout entière de Beethoven en mi bémol pour lui faire comprendre que je pouvais entendre, continua M. Morphine, mais il n'y a jamais fait attention. Je dois dire, il est vrai, que bien rarement, il m'est arrivé d'entendre quelque chose de secret. Mais c'est parce que, quand j'entendais parler et que je ne pouvais pas éviter autrement d'entendre, je sortais. Je suis sorti un jour, John, pendant une conversation entre deux frères, à laquelle prenait part dans le commencement le jeune Walter Gay. J'entendis quelques mots de la conversation avant de quitter mon cabinet. Vous vous en souvenez assez, sans doute, pour dire à votre sœur de quoi il s'agissait. « Je parlais du passé, Henriette, » dit son frère à voix basse, « et de nos positions respectives dans la maison. » Ce sujet de conversation n'était pas nouveau pour moi, mais il se présentait sous un jour nouveau. Je me trouvais ébranlé dans mon habitude. C'est l'histoire de presque tout le monde. Je croyais que tout allait bien autour de moi parce que je m'étais accoutumé à tout, dit M. Morphine. Je cherchais à me rappeler l'histoire des deux frères et je me mis à y réfléchir. Je crois vraiment que ce fut la première fois de ma vie que je fis de telles réflexions. Sous quel jour différent nous apparaissent les choses auxquelles nous sommes le plus accoutumés et comme elles nous semblent naturelles quand nous les voyons de ce point de vue nouveau auquel il faut bien nous placer un jour ou l'autre. Depuis ce matin-là, je fus tout à la fois moins bon enfant, comme on dit, moins facile et moins complaisant. Il resta quelques instants à tambouriner d'une main sur la table, puis il reprit plus vite, comme s'il avait hâte de terminer sa confession. Avant de savoir ce que je devais faire, ou même si je devais faire quelque chose, j'entendis entre les deux frères une seconde conversation où il fut question de leur sœur. Je n'eus aucun scrupule de conscience à laisser arriver jusqu'à moi librement les lambeaux, les débris de cette conversation. Je les considérais comme mon bien. Après cela, je vins ici pour voir moi-même la sœur. La première fois que je m'arrêtai à la porte du jardin, je pris pour prétexte de m'informer de la moralité d'un voisin pauvre, mais je m'écartai bientôt de mon sujet, et je crois que Miss Henriette se méfia de moi. La seconde fois, je demandai la permission d'entrer. Je fus introduit et je dis ce que j'avais à dire. Votre sœur me donna des raisons que je n'osais pas discuter. Elle ne pouvait, disait-elle, recevoir alors aucun secours de moi. Mais j'établis entre nous les moyens de communication qui subsistèrent jusqu'à ces derniers jours, époque où il me fut impossible de continuer mes petites visites, empêchées par des affaires importantes dont je fus accablé dernièrement. Je me doutais bien peu de tout cela, dit John Carker, en vous voyant chaque jour. Si Henriette avait pu deviner votre nom... Eh bien, à vous dire vrai, John, interrompit M. Morphine, je l'ai tenu secret pour deux raisons. Je ne sais si la première aurait été suffisante, mais on n'a aucun motif pour avoir confiance dans de bonnes intentions, et je me promis à tout hasard de ne me dévoiler qu'autant que je serai capable de vous rendre d'une façon ou d'une autre quelques services réels. Ma seconde raison, c'est que j'avais toujours l'espérance que votre frère pourrait s'adoucir à votre écart, et dans ce cas, je pensais que si jamais un homme soupçonneux et méfiant comme lui pouvait découvrir mon amitié pour vous, ce pourrait être aussi une cause nouvelle et fatale de division entre vous. Je résolus donc, au risque de voir tourner sa colère contre moi-même, ce qui eût été de peu d'importance, je résolus de m'adresser au chef de la maison pour vous être utile quand cela se pourrait. Mais les distractions causées par la mort de l'enfant, par la cour qu'il fit à Madame Dompey, son mariage, ses malheurs domestiques, ont laissé pendant bien longtemps votre frère seul à notre tête. Et il eût mieux valu pour nous, dit M. Morphine en baissant la voix, avoir eu pour chef un Soliveau. Ces deux mots lui avaient échappé malgré lui, et tendant une main au frère, une main à la sœur, il continua. J'ai dit maintenant et au-delà tout ce que j'avais à dire. Ce que j'ai sous-entendu va de soi, et j'espère que vous m'avez compris et que vous me croyez. Le temps est venu, John, bien tristement, bien malheureusement sans doute, mais le temps est venu où je puis vous venir en aide, sans nuire à cette pénitence réparatrice qui dure depuis si longtemps, car vous en êtes délivré maintenant sans qu'il y ait de votre faute. Il se fait tard, et il est inutile que j'en dise davantage aujourd'hui. Je n'ai pas besoin non plus de vous rappeler que vous êtes chargé plus que jamais de veiller sur le trésor que vous avez là. » En disant ces mots, il se leva. « Mais, reprit-il gaiement, passez devant avec la lumière, John. Et ne dites pas ce que vous avez envie de dire. » Le cœur de John Carker débordait, et il aurait voulu pouvoir se soulager en parlant. « Laissez-moi dire un mot à votre sœur. Nous nous sommes déjà entretenus seuls dans cette même chambre. Je voudrais le faire encore, bien qu'il semble plus naturel que vous soyez présent. » Il le suivit des yeux pendant qu'il sortait, et se tournant avec bonté du côté d'Henriette, il lui dit tout bas et d'une voix altérée et grave, « Vous voulez me demander quelque chose sur l'homme dont vous avez le malheur d'être la sœur ?»« Je tremble d'en parler, » dit Henriette. « Vous m'avez regardé tant de fois d'un air si inquiet, » dit M. Morfin, « que je crois avoir deviné ce que vous désirez savoir. A-t-il emporté de l'argent? Est-ce cela ?»«
Oui. » »«
Il n'en a pas emporté. »«
Oh, merci mon Dieu !» s'écria Henriette. « Merci pour mon cher John. »
« Vous dire qu'il a abusé de mille manières de la confiance qu'on avait en lui, » dit M. Morfin, « qu'il a trop souvent trafiqué et spéculé pour ses propres intérêts, plutôt que pour la maison qu'il représentait, qu'il a risqué bien gros souvent et qu'il en est résulté des pertes considérables, vous dire qu'il a toujours flatté servilement la vanité et l'ambition de son chef, quand il eût été de son devoir de modérer ses tendances funestes en lui montrant autant que possible où elle pouvait le conduire, tout cela, n'est-ce pas, ne vous surprendra pas. Pour grandir encore, la réputation de la maison dont le crédit est immense, et pour l'élever bien au-dessus des autres maisons de commerce, on s'est lancé dans des entreprises fabuleuses qui, en y réfléchissant de sang-froid, peuvent avoir, et auront certainement, au moindre revers, les conséquences les plus désastreuses. Au milieu des affaires innombrables de la maison, dans presque tous les pays du monde, immense labyrinthe dont il connaît seul les détours, il a eu la plus grande facilité, et il semble l'avoir mise à profit. Il a eu, dis-je, la plus grande facilité pour laisser dans l'ombre tous les résultats qu'il connaissait, et pour substituer aux faits des approximations, des comptes falsifiés. Mais dans ces derniers temps, vous me comprenez, n'est-ce pas, Miss Henriette ? « Parfaitement, parfaitement, » dit-elle, en le regardant fixement, la terreur peinte sur son visage. « Je vous en prie, dites-moi tout. » Dans ces derniers temps, il semble avoir pris à tâche d'éclaircir si bien toutes les affaires qu'en ouvrant les livres, on les embrasse d'un seul coup d'œil, quelque nombreuses, quelque variées qu'elles soient. On dirait qu'il a voulu montrer à son chef jusqu'où a pu le conduire le culte de l'orgueil, sa passion dominante. Il est certain qu'il s'est occupé constamment à encenser bassement cette passion et à la flatter honteusement. C'est en cela que consiste principalement son crime, parce que les affaires de la maison s'y trouvent engagées. « Encore un mot avant votre départ, cher monsieur, » dit Henriette. « N'y a-t-il aucun danger dans tout cela ?»« Quel danger ? » répondit-il en hésitant un peu. « Pour le crédit de la maison. Je ne puis m'empêcher de vous parler franchement et d'avoir en vous toute confiance, » dit M. Morfin, après l'avoir regardé un moment avec attention.
« Oh, vous le pouvez, vous le pouvez !»«
Oui, je le sais, » dit-il. « Vous me demandiez donc s'il y avait quelque danger pour le crédit de la maison. Non, il n'y en a aucun. Il pourrait y avoir une crise plus ou moins forte, mais pas de danger réel. À moins que, le chef de la maison ne pouvant se décider à réduire ses entreprises, et refusant d'ouvrir les yeux à l'évidence, ne s'obstine à voir la position telle qu'il se l'est toujours représentée et qu'il n'aille plus loin qu'il ne peut. Le crédit de la maison serait alors ébranlé.
« Mais on ne craint rien de ce genre, » dit Henriette.
« Il n'y aura pas de demi-confidence entre nous, » dit M. Morfin en lui serrant la main. « M. Dombey est inabordable. Il est en ce moment sous l'influence de son orgueil, de sa colère. Il n'a plus sa raison. Il est fou. » Mais cet état de trouble et de folie, dont rien n'approche, ne pourra pas durer. Maintenant, Miss Henriette, vous savez tout, le bien et le mal. Je n'ajouterai rien de plus ce soir. Adieu. » Il lui baisa la main, et, gagnant la porte où le frère l'attendait, il l'arrêta doucement quand il voulut parler. Il lui dit que, puisqu'il se verrait souvent maintenant, il pourrait lui dire cela une autre fois s'il le voulait, mais qu'il n'avait pas le temps de l'écouter en ce moment, et il s'éloigna d'un bon pas pour ne pas entendre les remerciements qui pourraient l'accompagner. Le frère et la sœur restèrent à causer au coin du feu, presque jusqu'au jour. Cette espérance d'une nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux les tenait éveillés. On eût dit deux pauvres naufragés qui, perdus depuis longtemps sur un rivage solitaire, apercevraient enfin un navire sauveur après s'être résignés à leur malheureux sort et avoir dit adieu pour toujours à leur patrie. Mais une autre cause de tristesse les tenait aussi éveillés. L'obscurité au milieu de laquelle cette lueur d'espérance s'était fait jour les enveloppait encore, et l'ombre de leur frère coupable errait dans cette maison où pourtant jamais il n'avait mis le pied. Cette ombre ne s'effaça pas, ne disparut pas devant l'éclat du jour. Le matin elle était là, à midi elle y était encore, quand la nuit vint, elle fut plus sombre et plus lugubre, comme on va le voir. John Carker était parti pour aller à un rendez-vous que lui avait indiqué leur ami, et Henriette était seule à la maison. Elle était restée seule plusieurs heures. La soirée était triste, sombre et noire, et peu faite pour la distraire de ses pensées. Ce frère qu'elle ne voyait plus, qui lui était devenu depuis longtemps étranger, venait la troubler en se présentant à elle sous mille formes terribles. Elle le voyait, ou mort ou mourant, l'appeler, la regarder fixement d'un air de menace. Ces images importunes, qui venaient obséder son esprit, l'effrayaient, tant elles semblaient une réalité. Aussi, lorsque les ténèbres de la nuit s'épaissirent, elle n'osa plus lever la tête, ni regarder dans les recoins de la chambre, dans la crainte que le fantôme de son frère courroucé, produit de son imagination surexcitée, ne fût là tout prêt à l'effrayer. Un moment, l'idée qu'il était caché dans la chambre à côté lui traversa l'esprit. Elle savait bien que c'était folie de sa part, et au fond, elle n'y croyait pas. Cependant, elle ne put s'empêcher d'y aller pour s'assurer qu'il n'y était pas. Mais elle faisait de vains efforts. La chambre, quand elle y rentrait, se peuplait de terreurs chimériques. Elle ne pouvait se débarrasser de ces êtres imaginaires. On aurait dit des géants de pierre enracinés dans le sol. Il faisait déjà presque noir. Elle était assise près de la fenêtre, la tête sur la main, les yeux baissés, lorsque, voyant les ténèbres envahir l'appartement, elle leva les yeux et poussa un cri involontaire. Contre les carreaux, au dehors, il y avait une figure pâle et effrayée, qui regardait dans la chambre. Pendant un instant, cette figure sembla indécise, comme si elle cherchait quelque chose. Enfin, ses yeux se reposèrent sur la sœur de John et devinrent étincelants. « Laissez-moi entrer ! Laissez-moi entrer ! J'ai besoin de vous parler !» Et sa main frappait sur la vitre. Elle reconnut aussitôt la femme aux longs cheveux noirs à qui elle avait donné asile un soir qu'il pleuvait. Celle qu'elle avait réchauffée, à qui elle avait donné de la nourriture. Cette vue l'effraya quand elle se rappela la violence de son caractère, et, se reculant à quelque distance de la fenêtre, elle resta debout, irrésolue, inquiète. « Laissez-moi entrer ! Laissez-moi entrer ! Je suis reconnaissante, tranquille, humble, tout ce que vous voudrez, mais laissez-moi vous parler !» Ce ton de supplication violente, l'ardente expression de sa physionomie, ses mains tremblantes qui se levaient pour l'implorer, cette voix qui semblait reproduire l'effroi et la terreur qu'elle-même éprouvait en ce moment, tout décida Henriette. Elle se hâta d'aller ouvrir la porte. « Puis-je entrer, ou dois-je vous parler d'ici ?» demanda la femme en lui prenant la main. « Que voulez-vous ? Qu'avez-vous à me dire ?»« Un mot, mais laissez-moi vous le dire, ou je ne vous le dirai jamais. Je me sens déjà tenté de m'en aller. Il me semble qu'il y a des mains qui me tirent pour m'arracher de votre porte. Laissez-moi entrer, si vous pouvez avoir confiance en moi, seulement pour cette fois. » Le courage d'Henriette l'emporta sur sa frayeur, et elles entrèrent dans la petite cuisine, éclairée par le feu de la cheminée. C'était là qu'Alice s'était assise autrefois, qu'elle avait mangé et qu'elle avait séché ses habits. « Asseyez-vous là, dit-elle, en s'agenouillant devant elle, et regardez-moi. Vous vous souvenez de moi ? Oui. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté, quand je vous ai dit qui j'étais, d'où je venais ? Avec mes vêtements déchirés, mes pieds meurtris, la figure fouettée par la pluie et le vent ? Oui. Vous savez que je suis revenu ce soir-là, que j'ai jeté votre argent dans la poussière, et que je vous ai maudite, vous et votre race. Maintenant, regardez-moi à vos pieds, suppliante comme je l'étais alors. Si ce que vous demandez, dit Henriette avec douceur, est le pardon, mais ce n'est pas le pardon, répondit l'autre, avec un regard plein d'une fierté farouche. Ce que je demande, c'est que vous me croyez. Maintenant, vous jugerez si je suis digne de foi, en sachant ce que j'étais et ce que je suis. » Et, toujours à genoux, les yeux fixés sur la flamme qui éclairait sa beauté flétrie et ses cheveux noirs en désordre, elle rejeta une de ses longues tresses sur ses épaules, la roula autour de sa main et la mordit en la tordant, sans penser à ce qu'elle faisait. Elle continua, « Quand j'étais jeune et jolie, et que cette chevelure était l'objet de soins délicats, et elle montrait avec mépris les cheveux qu'elle tenait dans la main, quand cette chevelure faisait de l'admiration de tout le monde, ma mère, qui ne s'était guère occupée de mon enfance, s'avisa que je valais quelque chose, m'aima et devint fière de moi. Elle était avare et pauvre. Elle pouvait tirer parti de moi. Ce n'est pas une grande dame qui aurait jamais eu cette idée pour sa fille, ou qui se serait conduite comme le fit ma mère. Oh non, jamais cela n'arrive. Nous le savons tous, et cela prouve que c'est seulement chez de misérables créatures comme nous qu'on peut voir des mères élever mal leurs filles et les exposer aux tristes conséquences d'une pareille éducation. » Elle regardait le feu, comme si elle oubliait un moment qu'elle eut quelqu'un auprès d'elle, et elle continua d'un air rêveur, en serrant plusieurs fois autour de sa main sa longue tresse de cheveux. Qu'en résulta-t-il? Il est inutile de le dire. Tout cela ne finit pas parmi nous par de mauvais mariages. Il n'en résulte pour nous que la honte et la misère, et la honte et la misère sont tombées sur moi. » Elle leva tout à coup les yeux. Ils avaient perdu leur expression rêveuse. Elle regarda Henriette et dit, « Mais je perds là mon temps, et je n'en ai pas à perdre. Et pourtant, si je n'avais pas pensé à tout cela, je ne serais pas ici. La honte et la misère sont tombées sur moi, disais-je. On me fit servir à des plaisirs éphémères. On fit de moi un jouet qu'on brisa cruellement après et qu'on jeta de côté avec dédain. Et par qui pensez-vous que je fus ainsi rebuté? Pourquoi me le demandez? Dit Henriette. Pourquoi tremblez-vous? Répondit Alice, dont l'œil étincelait. C'est lui. C'est cet homme qui m'a damné. Je suis tombé par lui dans l'abîme de la honte et de la misère. Je fus impliqué dans une affaire de vol. J'en étais complice sans en avoir eu les profits. On me découvrit. Je fus traduite devant le tribunal, sans un ami, sans un sou. Je n'étais encore qu'une enfant, mais j'aurais mieux aimé mourir que de lui demander un mot, si un mot de lui avait pu me sauver. Oui, j'aurais voulu mourir. J'aurais affronté tous les supplices. Mais ma mère, toujours avare, lui envoya quelqu'un en mon nom qui lui raconta toute l'histoire et le pria humblement de me faire un dernier petit présent. Elle ne demandait pas même autant de louis que j'ai de doigts dans cette main. Le croiriez-vous? Il m'a narqué dans ma misère au moment où il me voyait abattu à ses pieds. Il ne m'a pas même laissé le dernier souvenir de lui qu'on demandait pour moi, trop heureux de me voir déporté au loin, de songer qu'il serait débarrassé de moi, que je mourrais là-bas et que j'y laisserais mon cadavre. Savez-vous de qui je veux parler? Pourquoi me le demander? Répéta Henriette. Et pourquoi tremblez-vous? Dit Alice en posant sa main sur son bras et en la regardant en face. La réponse est sur vos lèvres. C'était votre frère James. Henriette tremblait de plus en plus, mais elle ne détourna pas cependant ses regards de ceux qu'Alice attachait sur elle. Lorsque je sus que vous étiez sa sœur, et je l'appris le soir même, je revins, toute fatiguée et toute meurtrie, pour jeter à vos pieds ce que vous m'aviez donné. Ce soir-là, il me semblait que, fatiguée et harassée que j'étais, j'aurais pu cependant faire tout le tour de la terre pour aller lui enfoncer un poignard dans le cœur, si j'avais pu me trouver face à face et seul avec lui. Croyez-vous que je l'aurais fait? Oui, je le crois. Grand Dieu! Pourquoi êtes-vous revenu? Depuis, dit Alice, en étreignant toujours le bras d'Henriette de sa main convulsive, et la regardant toujours en face, depuis je l'ai vu. Mes yeux l'ont suivi au grand jour. Si mon ressentiment sommeillait dans mon cœur en son absence, il se réveilla à sa vue avec une nouvelle ardeur. Vous savez qu'il a outragé un homme orgueilleux et fier, et qu'il s'en est fait un mortel ennemi. Eh bien, que diriez-vous si j'avais dévoilé à cet homme le lieu de sa retraite ?
Dévoiler le lieu de sa retraite ? Dit Henriette.
Si j'avais trouvé quelqu'un qui fût dans le secret de votre frère, qui sût où et comment il est parti avec sa complice, si je lui avais fait révéler son secret, devant cet ennemi caché par moi pour l'entendre, si moi, assise pendant ce temps-là, j'avais tenu mes regards fixés sur la figure de cet ennemi, pour voir se changer par degrés son visage, au point de n'avoir plus rien d'humain, si je l'avais vu s'élancer comme un fou à sa poursuite, si moi qui suis ici, je savais qu'à cette heure, il est sur ses traces comme un démon furieux, et que dans tant d'heures, il l'aura atteint.
« Retirez votre main, » dit Henriette en reculant. « Sortez, votre contact me fait frissonner. »
« Eh bien, je l'ai fait, » répondit l'autre, en la regardant avec son œil de feu et sans faire attention à l'interruption d'Henriette. « Mon langage, mes yeux, vous prouvent-ils assez que je l'ai fait ? Croyez-vous ce que je dis ?
J'ai peur de le croire. Quittez mon bras. »
« Non, pas encore. Vous pouvez juger si j'étais altéré de vengeance pour avoir pu garder si longtemps mon ressentiment jusqu'à ce jour. »«
C'est affreux, » dit Henriette.
« Et quand vous me voyez maintenant, » dit Alice d'une voix sourde, « quand vous me voyez ici, agenouillé devant vous, vous touchant de ma main, vous regardant en face, vous pouvez croire que tout ce que je dis est bien vrai et qu'il s'est livré dans mon cœur une lutte terrible. » J'ai honte de vous avouer ce que j'éprouve en ce moment, mais je ne le hais plus autant. Je me méprise moi-même, j'ai lutté avec moi tout le jour, toute la nuit. Mais je me sens disposé à lui pardonner sans savoir pourquoi. Je voudrais réparer ce que j'ai fait, si c'est possible. Je ne voudrais pas les voir se rencontrer pendant que son ennemi est aveuglé par la colère. Si vous l'aviez vu comme moi quand il est parti hier soir, vous comprendriez mieux le danger.
« Mais comment le prévenir ? Que faire ? » s'écria Henriette.
« Toute la nuit, » poursuivit l'autre avec exaltation, « j'ai rêvé de lui. Je n'étais pas endormi pourtant, mais je le voyais noyé dans son sang, et pendant le jour, je croyais l'avoir à mes côtés.
« Mais que faire ? » dit cette Henriette, toute tremblante.
« S'il y a quelqu'un qui puisse lui écrire, qui puisse le faire prévenir ou aller le trouver, il n'y a pas une minute à perdre. Il est à Dijon. » Connaissez-vous cette ville ? Savez-vous où elle se trouve ?
Oui.
Avertissez-le que l'homme dont il s'est fait un ennemi est transporté de rage et qu'il ne faut pas qu'il affronte sa présence. Dites-lui qu'il est en chemin et qu'il se hâte, je le sais. Qu'il se sauve, s'il en est encore temps. Qu'il évite de se rencontrer avec lui en ce moment. Encore un mois ou deux seulement, et ce sera tout autre chose. Que je ne sois pas cause de leur rencontre. Qu'ils se retrouvent partout, excepté là, peu importe quand, pourvu que ce ne soit pas maintenant. Que son ennemi le poursuive et le découvre de lui-même sans mon aide, à la bonne heure. Mais j'en ai déjà bien assez sur la conscience. Qu'on m'épargne au moins le remords. Le feu avait cessé de se refléter dans ses cheveux de jais, sur sa tête qu'elle relevait fièrement, sur ses yeux ardents. Sa main avait quitté le bras d'Henriette, et la place où elle s'était agenouillée était vide. Chapitre 16. Les fugitifs. Il n'est pas encore minuit. Nous sommes dans un appartement décoré à la française et composé d'une demi-douzaine de chambres. Une entrée ou un corridor sombre, une salle à manger, un salon, une chambre à coucher et au fond un salon ou boudoir, plus petit et plus retiré que tout le reste. Toutes ces pièces sont fermées par une grande porte à deux battants qui donne sur le grand escalier. Mais dans chaque chambre se trouvent deux ou trois portes de communication avec les autres pièces de l'appartement ou avec certains petits couloirs pratiqués dans le mur et conduisant, selon les habitudes françaises, à un escalier de service. Cet escalier aboutit en bas à un sombre passage. Le tout est situé au premier étage d'un hôtel si vaste que les appartements, malgré le grand nombre de pièces, ne prennent pas tout un côté de la cour dont l'hôtel fait le tour. Un air de splendeur, assez passé déjà pour être triste, et pourtant assez brillante encore pour gêner et pour embarrasser, par un luxe d'inutilités incommodes, les détails de la vie intérieure régnaient ici partout. Les murs et les plafonds étaient peints et dorés. Les parquets étaient cirés et frottés. Des draperies rouges pendaient en festons sur les croisées, les portes et les glaces. Des girandoles, tortillées et enroulées comme des branches d'arbres ou comme les andouillées d'un cerf, sortaient des panneaux du mur. Mais pendant le jour, quand les persiennes, en ce moment fermées, étaient ouvertes et que la lumière pénétrait dans les chambres, on pouvait voir, dans toute cette friperie, des traces de dégradation et d'usure de poussière, de soleil, d'humidité, de fumée. Longtemps inoccupé par intervalle, le mobilier avait souffert de cette vacance prolongée, car ces jouets de la vanité, ces amusements de la vie sont délicats et sensibles comme la vie même. Ils s'altèrent, abandonnés derrière les volets et les verrous, comme les vivants dans un cachot. La nuit même, propice à dissimuler ces traces, malgré l'éclat douteux des bougies, n'avait pu les effacer tout à fait. L'éclairage insuffisant de l'appartement leur permettait seulement de se cacher dans l'ombre. La lumière des brillants candélabres réfléchit dans les glaces, dans les dorures de la boiserie, dans les tentures aux vives couleurs, n'éclairait ce soir-là que le petit boudoir dont nous venons de parler. Vu du vestibule où brûlait une faible lumière, ce boudoir, à travers la longue perspective des portes ouvertes, brillait dans le lointain comme une pierre précieuse. Au milieu était assise une femme d'une rare beauté. C'était Edith. Elle était seule, et c'était toujours la même femme, hautaine et dédaigneuse. Sa joue était un peu plus pâle, la prunelle de ses yeux plus dilatée et plus brillante en apparence. Mais c'était toujours la même nature altière. La honte ne se lisait pas sur son front, le repentir ne faisait pas courber son cou dédaigneux. Toujours impérieuse et fière, toujours insouciante d'elle-même et des autres, elle était assise, ses yeux noirs fixés sur le parquet. Elle attendait quelqu'un. Elle n'avait ni livre, ni ouvrage pour tromper le temps. Elle n'avait d'autre distraction que ses propres pensées. Elle était préoccupée d'un projet assez important pour lui faire oublier les heures. Ses lèvres resserrées l'une contre l'autre tremblaient, sitôt qu'elle les abandonnait à elle-même. Ses narines étaient gonflées, ses mains crispées. Son sein se soulevait sous la violence de ses sentiments. Elle attendait toujours. Au bruit d'une clé qui remuait dans la porte d'entrée, et au bruit d'un pas dans l'antichambre, elle tressaillit et s'écria « Qui est là ?» On lui répondit en français, et deux hommes entrèrent, apportant le service pour le souper. « Qui vous a commandé cela ? » demanda-t-elle. « Monsieur, quand il a loué l'appartement. Monsieur n'est resté qu'une heure ici, après quoi il a dit « En route !» laissant une lettre pour madame. Madame l'a reçue, sans doute. « Oui. » « Mille pardons, je craignais que cette lettre n'eût été oubliée, » reprit l'homme, un homme chauve, avec une grande barbe, le patron d'un restaurant voisin. « Monsieur a demandé le souper pour 7 heures, et il a ajouté qu'il avait prévenu madame dans cette lettre des ordres qu'il nous a donnés. Monsieur a fait, à la tête d'or, l'honneur de demander que le souper fût de premier choix et tout à fait délicat. Monsieur trouvera, j'espère, que sa confiance dans la tête d'or n'est pas mal placée. » Edith n'ajouta rien, mais elle resta pensive pendant qu'il mettait le couvert pour 2 personnes et disposait les bouteilles. Elle se leva avant qu'ils eussent fini. Et, prenant une lampe, elle passa dans la chambre à coucher, puis dans le salon, où elle examina en peu de temps, mais avec soin, toutes les portes. Elle remarqua surtout celle qui, dans la dernière chambre, donnait sur le couloir pratiqué dans le mur. Elle en retira la clé et la remit en dehors, puis elle vint reprendre sa place. Les deux hommes, le second était brun, d'un teint bilieux, vêtu d'une veste et bien rasé, ses cheveux noirs étaient coupés en brosse, avaient terminé les préparatifs du souper et s'étaient assurés que rien ne manquait. Celui qui avait parlé le premier demanda si madame pensait que monsieur serait encore longtemps à venir. « Je n'en sais rien, » répondit-elle. « Qu'importe. »« Pardon, madame, mais voici le souper prêt. Il faut qu'il soit mangé à la minute. Monsieur, qui parle français comme un ange ou comme un français, ce qui est tout un, nous a prévenu qu'il était l'exactitude même. Les Anglais sont si exacts. Ah, quel bruit, mon Dieu ! C'est monsieur ! Écoutez. » En effet, c'était monsieur, qui arrivait avec ses dents brillantes sur les pas du second serviteur. On ne voyait qu'une bouche qui avançait à travers les chambres obscures. Quand il entra dans le sanctuaire, resplendissant de lumière et de couleurs, il apparut alors tout entier. il embrassa madame qu'il appela en français sa charmante femme. « Mon Dieu, madame se trouve mal. La joie étouffe madame !» s'écria la tête chauve à la longue barbe. Ce n'était rien. Madame avait eu seulement un léger frisson. Le domestique en avait à peine fait la remarque qu'elle avait déjà posé la main sur le dossier d'un grand fauteuil en velours, se redressait de toute sa hauteur et reprenait un visage impassible. François courut à la tête d'or chercher le souper. Dans de semblables occasions, il ne court pas, il vole comme un ange ou comme un oiseau. La malle de monsieur est dans sa chambre. Tout est prêt. Le souper va être servi dans un instant. Tout cela fut dit par l'homme chauve, avec force salut, accompagné de sourires. Enfin arriva le souper. Les plats étaient sur des réchauds. Les viandes froides étaient d'avance sur la table. La vaisselle de rechange était préparée sur le buffet. Monsieur se montra content de cet arrangement. La table était petite, ce qui lui plut beaucoup. Il dit au domestique qu'il pouvait laisser là les réchauds et s'en aller. Il se chargerait lui-même de desservir les plats de sa propre main. « Pardon, dit poliment l'homme chauve, c'est impossible, monsieur. » Ce n'était pas l'opinion de monsieur, qui fit entendre qu'il n'avait plus besoin de personne ce soir-là. « Mais madame, insinua l'homme chauve, madame, répliqua monsieur, a sa femme de chambre, cela suffit. » « Je vous demande mille pardons, madame n'a pas de femme de chambre. »« Je suis venu seul ici, dit Edith, j'ai préféré venir seul. »« Je suis habitué à voyager, je n'ai pas besoin de domestique, qu'on ne m'envoie personne. » Monsieur, donc, qui persistait dans sa première intention, suivit les deux domestiques jusqu'à la dernière porte qu'il ferma sur eux à double tour. L'homme chauve, qui en sortant s'était retourné pour saluer, remarqua que madame était toujours debout, la main sur le dos du fauteuil de velours, et que sa figure ne regardait pas monsieur, quoique ses yeux fussent dirigés devant elle. Lorsque Carker ferma la porte, le bruit de la clé dans la serrure, traversant toutes les pièces, vint frapper l'oreille d'Edith. Minuit sonnait alors à la cathédrale. Elle l'entendit s'arrêter, comme s'il écoutait l'heure aussi de son côté. Enfin, il revint vers elle, marchant au milieu d'un profond silence, et fermant toutes les portes des pièces qu'il traversait. Edith, un instant, quitta le dossier du fauteuil pour approcher à sa portée un couteau qui était sur la table. Puis elle reprit la même attitude. « L'étrange idée, mon amour, d'être venue ici toute seule, lui dit-il en entrant. « Comment ? Répliqua-t-elle. Il y avait dans ce mot tant de dureté, dans le mouvement de sa tête quelque chose de si farouche, dans son attitude quelque chose de si repoussant, dans son froncement de sourcils quelque chose de si sombre, qu'il s'arrêta devant elle, la lampe à la main, et la regardant effarée, comme si elle l'avait clouée à sa place. « Je dis, reprit-il enfin, en mettant la lampe sur la table et en souriant de son plus aimable sourire, je dis qu'il est étrange que vous soyez venue ici toute seule. » C'était une précaution inutile et qui aurait pu devenir nuisible même. Vous auriez dû prendre quelqu'un au Havre ou à Rouen. Il ne manquait pas là de femme de chambre, et vous aviez le temps de choisir, quoique vous soyez bien la plus capricieuse et la plus difficile des femmes, comme vous en êtes aussi la plus belle. » Les yeux d'Edith brillaient d'une manière étrange, mais elle restait toujours la main posée sur le fauteuil, sans dire un mot. « Je ne vous ai jamais vue aussi belle que ce soir, » reprit Carker. « Le portrait même que j'emportais partout avec moi dans mon cœur pendant cette cruelle épreuve, en y rêvant nuit et jour, est dépassé par la réalité. Pas un mot, pas un regard. Ses yeux sont entièrement cachés par ses longs cils, mais elle relève toujours fièrement la tête. « Les conditions étaient dures et cruelles, » dit Carker avec un sourire, « mais elles sont plus que remplies maintenant, et ne feront que rendre le présent plus sûr et plus délicieux. La Sicile sera le lieu de notre retraite. Nous irons, mon amour, chercher sous ce beau ciel, où l'existence est si douce, une compensation à notre vieil esclavage. » Il s'avançait gaiement vers elle, lorsque tout à coup, elle saisit le couteau placé sur la table et recula d'un pas. « Tenez-vous tranquille, dit-elle, ou je vous frappe. » Le changement subit qui s'était opéré dans toute sa personne, ce visage courroucé, ses yeux étincelants de haine, ce sourcil froncé, l'arrêtèrent à l'instant comme frappé de la foudre. « Restez tranquille, répéta-t-elle, n'approchez pas. Il y va de votre vie. » Tous deux étaient debout, l'un devant l'autre, se regardant. Le visage de Carker trahissait la colère et la surprise. Mais il se contint et dit d'une voix douce « Allons, allons, chut, nous sommes seuls. Personne ne nous voit, personne ne nous entend. Croyez-vous m'effrayer par tous ces petits stratagèmes de pudeur ?»« Et vous, croyez-vous m'effrayer, répondit-elle fièrement, me détourner de mon projet, de la résolution que j'ai prise, en me rappelant la solitude où nous nous trouvons et l'impossibilité d'un secours ?» M'effrayer, moi, qui suis venu ici seul à dessein? Si je vous avais craint, n'aurais-je pas pu vous éviter? Si je vous avais craint, serais-je ici, à cette heure avancée de la nuit, et oserais-je vous jeter à la face ce que je vais vous dire? Que signifie cela, ma belle grondeuse, dit-il, car vous êtes plus belle encore dans votre colère que les autres femmes dans leurs moments les plus aimables. Je ne vous dirai rien, reprit-elle, jusqu'à ce que vous retourniez à votre chaise. Je vous répéterai seulement, ne m'approchez pas. Ne faites pas un pas de plus. Si vous avancez, je vous le dis, aussi vrai que Dieu nous voit, je vous tuerai. Me prenez-vous pour votre mari ? Reprit-il en grimaçant un sourire. Elle dédaigna de lui répondre, et lui montra du doigt le fauteuil. Il se pinça la lèvre, fronça le sourcil, se mit à rire, et se décida à s'asseoir avec un mélange de honte, d'indécision et de colère qu'il ne pouvait cacher. Il se mordit les ongles avec rage et la regarda de côté d'un air décontenancé, tout en feignant de rire de ce caprice. Elle mit le couteau sur la table et, posant sa main sur son sein, elle dit « J'ai là quelque chose qui n'est pas un colifichet d'amour, et plutôt que de vous laisser porter encore sur moi la main, je m'en servirai contre vous. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Je m'en servirai sans plus de répugnance que pour tuer un reptile. » Il affecta de rire gaiement et la pria de vouloir bien expédier au plus vite sa petite comédie, car le souper refroidit, lui dit-il. Mais le regard furtif qu'il lui lança avait quelque chose de sombre et de menaçant, et il frappa une fois le plancher du pied en jurant tout bas avec colère. « Combien de fois, dit Edith, en abaissant sur lui son œil noir, combien de fois votre audacieuse fourberie ne m'a-t-elle pas abreuvé d'insultes et d'outrages? Combien de fois ne m'avez-vous pas jeté au visage mon union, avec vos manières doucereuses, avec vos paroles malignes et vos regards moqueurs? Combien de fois avez-vous mis à nu les plaies de mon amour pour cette douce et malheureuse jeune fille, afin de torturer mon cœur? Combien de fois avez-vous attisé le feu qui me dévore depuis 2 ans? Combien de fois m'avez-vous poussé à me venger quand j'étais à bout de souffrance ? » ?»« Vous en avez fait probablement le calcul, madame, répliqua-t-il, et je ne doute pas que votre compte ne soit exact. Quant à votre mari, le pauvre homme, toutes ces jérémiades pouvaient produire de l'effet sur lui, mais... Eh bien, voyez-vous, dit-elle, en le mesurant de cet œil hautain et méprisant qui le faisait bien petit auprès d'elle, quelque brave qu'il voulût paraître, voyez-vous, lors même que toutes les raisons que j'avais pour le mépriser se seraient dissipées comme les plumes au souffle du vent, je l'aurais encore méprisé pour cela seul qu'il se servait d'un conseiller tel que vous. « Est-ce pour cela que vous vous êtes sauvé avec moi ?» lui demanda-t-il avec ironie. « Oui, et pour nous voir face à face une dernière fois, misérable. Nous nous sommes vus ce soir, nous nous quitterons ce soir. Lorsque j'aurai fini, je ne resterai pas une minute de plus. » Il lui lança son plus affreux regard, serrant avec rage le bord de la table. Ce fut sa réponse et sa menace, mais il ne se leva même pas. « Je suis une femme, continua-t-elle en le regardant d'un œil ferme. Je ne suis qu'une femme qui, depuis sa plus tendre enfance, a été habituée à n'avoir plus ni pudeur ni sensibilité. J'ai été offerte et rejetée, mise à l'enchère et débattue, au point que mon âme s'en est soulevée de dégoût. Si j'ai eu quelques qualités, quelques charmes, ils n'ont servi qu'à me faire adjuger à un prix plus élevé. On m'a vendu à la criée. Mes parents pauvres, ces fiers parents, l'ont vu et l'ont approuvé, ce marché. Aussi, tout lien avec eux a été rompu dans mon cœur. Il n'y en a pas un parmi eux dont je me soucie plus que d'un carlin. Je reste seul au monde, et je me rappelle combien le monde a été trompeur pour moi et combien je l'ai trompé moi-même. Vous savez tout cela, et vous n'ignorez pas que je mérite la réputation que je me suis faite. Oui, je le crois, dit-il. Et vous avez compté là-dessus, répondit-elle, pour me poursuivre. Moi, je ne résistais que par mon indifférence aux soins qui s'appliquaient tous les jours à me faire ce que je suis devenu, et comme je savais que mon mariage me déroberait au moins à ce marchandage fatigant, je me suis laissé vendre aussi honteusement que la femme que l'on mène au marché la corde au cou. Vous savez tout cela ?
Oui, dit-il en lui montrant toutes ses dents, je le sais.
Et vous avez compté là-dessus, répéta-t-elle encore une fois, pour me poursuivre. Depuis le jour du mariage, je me suis trouvé exposé à une nouvelle honte. Je me suis vu en butte aux sollicitations insultantes d'un misérable. Je lisais dans ses yeux ses honteux désirs, aussi clairement exprimés que s'ils y eussent été écrits en termes grossiers et qu'il me les eût glissés chaque fois dans la main. C'était le dernier degré d'humiliation qui m'était réservé. Cette honte, mon mari lui-même me l'infligeait. Il m'y enfonçait de gaieté de cœur, m'y plongeait de ses propres mains, et cela mille et mille fois. Aussi, chassé par vous deux de tous les asiles où je pouvais trouver le repos, forcé par vous deux de sacrifier ce qui restait encore en moi d'amour et de douceur, sous peine de causer la perte de l'objet de cette affection, ballotté de l'un à l'autre, observé par l'un quand j'avais échappé à l'autre, ma colère se changea en rage contre tous les deux. Je ne sais qui je haïssais le plus, du maître ou du valet. Elle était là, debout devant lui, triomphante, et dans tout l'éclat de sa beauté révoltée. Il la regardait attentivement. Il vit qu'elle était résolue, indomptable, sans plus le craindre que s'il était un ver de terre. « À quoi bon vous parler d'honneur ou de pudeur ? » continua-t-elle. « Que signifie pour vous de tels mots ? Que signifie-t-il dans ma bouche ? Mais si je vous disais que votre approche seule glace mon sang, que depuis la première heure où je vous ai vu, je vous ai haï, et à présent que ma répugnance instinctive s'est augmentée de tout ce que j'ai appris de vous, si je vous disais que vous êtes pour moi la créature la plus odieuse qui existe sur la terre, que répondriez-vous ?
Ce que je répondrais, ma reine, répondit-il avec un faible sourire,
le soir où, enhardi par la scène à laquelle vous aviez assisté, vous avez osé venir me parler dans ma chambre, que s'est-il passé ?
Il leva les épaules et rit encore.
« Que s'est-il passé ? » répéta-t-elle.
« Votre mémoire est si fidèle, répondit-il, que je m'en rapporte à vous là-dessus. »«
Oui, je me rappelle tout. Écoutez, vous m'avez proposé cette fuite, non pas telle qu'elle est, mais telle que vous l'aviez rêvée. Vous m'avez dit qu'il ne tenait qu'à vous de dévoiler notre entrevue et de faire voir que vous étiez auprès de moi. Vous m'avez dit qu'en consentant à vous recevoir seul tant de fois, en vous ménageant l'occasion de me voir, en vous avouant si ouvertement que je n'avais pour mon mari que de l'aversion, sans avoir le moindre respect pour moi-même, je m'étais perdu, que je vous avais donné le pouvoir de diffamer mon nom et que ma réputation désormais dépendait de votre bon plaisir.
« Ruse d'amour que tout cela, interrompit-il en souriant, c'est toujours le vieux refrain. »
Ce soir-là, dit Edith, la lutte que j'avais soutenue en moi avec un je ne sais quoi qui n'était pas le respect de moi-même, mais qui sans doute était un dernier souffle de pudeur, cette lutte cessa. Ce soir-là, il n'y eut plus en moi que colère et désir de vengeance. Je frappai un coup qui a terrassé votre maître orgueilleux et qui vous a mis, vous, là où vous êtes maintenant, en face de moi, me regardant et sachant ce que je veux dire. » Il se leva de sa chaise, le blasphème à la bouche. Edith porta la main à son sein. Pas un de ses doigts ne tremblait, pas un de ses cheveux ne remuait. Ils étaient tous les deux debout, face à face, séparés par la table et le fauteuil. Non, jamais je n'oublierai que ce soir-là, cet homme a approché ses lèvres des miennes, qu'il m'a serré dans ses bras comme il l'a fait ce soir, dit Edith en le montrant du doigt. Jamais je n'oublierai la tache que son baiser a laissée sur ma joue, la joue contre laquelle Florence allait reposer sa tête innocente. Jamais je n'oublierai ma rencontre avec elle au moment où ce baiser était encore brûlant sur ma joue, au moment où je songeais tout à coup, en la voyant, que si je la délivrais de la persécution causée par mon amour, je jetais en même temps sur son nom la honte et le déshonneur du mien, et que je serais toujours pour elle la première femme coupable qu'elle aurait fui. Ah, si je pouvais jamais oublier tout cela, ô mon époux, vous dont je me suis volontairement séparé, il me serait aussi facile d'oublier le supplice de ces deux dernières années, de défaire ce que j'ai fait et de vous être resté fidèle. » Ses yeux étincelants, qu'elle avait levés un moment, se reportèrent sur Carker. et elle lui tendit de la main gauche plusieurs lettres. « Regardez, lui dit-elle avec mépris, vous m'avez adressé ces lettres sous le faux nom que vous avez pris en route. L'une m'est parvenue ici, l'autre je ne sais plus où. Les cachets sont intacts. Reprenez vos lettres. » Elle les froissa dans sa main et les jeta à ses pieds, et cette fois, en le regardant, elle sourit. « Nous nous sommes rencontrés ce soir pour ne plus nous revoir, dit-elle. Vous avez rêvé trop tôt de la Sicile et de son doux repos. Vous auriez pu jouer votre rôle de courtisan, de flatteur et de traître un peu plus longtemps pour devenir plus riche. Vous payez cher votre voluptueuse fantaisie. » « Edith, répliqua-t-il en la menaçant de la main, asseyez-vous. Finissons-en. Quel démon vous possède ? » ?»« Dites, quelle légion de démons, répliqua-t-elle en se redressant de toute sa hauteur, comme si elle eût voulu l'écraser. Vous et votre maître, vous les avez évoqués dans une maison où ils se plaisent, et ils vous déchireront tous deux. Traître envers lui, traître envers son innocent enfant, traître toujours et partout, allez vous vanter de ma conquête et grincer les dents une bonne fois pour vous apprendre à mentir. » Il resta devant elle la menace à la bouche, et comme cherchant autour de lui s'il ne trouverait pas un moyen de la soumettre. Mais elle lui résistait toujours avec la même force et sans trembler. « Tout ce dont vous vous glorifiez, j'en triomphe, moi. J'ai choisi entre tous les hommes le plus vil que je connaisse, parasite et l'instrument du plus fier tyran, pour que la blessure que je lui fais soit plus profonde et la torture plus cruelle. Allez vous vanter pour me venger de lui, et vous savez en même temps le triste rôle que vous y jouez. Vous vous voyez vous-même sous des couleurs aussi méprisables, sinon aussi odieuses, que je vous vois d'ici. Allez vous vanter maintenant pour me venger de vous. » Il écumait, la sueur coulait de son front. Si elle avait faibli un instant, il l'aurait garrottée, mais elle était ferme comme un roc et son œil perçant ne le perdait pas de vue. « Nous n'allons pas nous séparer ainsi, dit-il. Croyez-vous que je sois tombé en enfance pour vous laisser partir en colère ? Et croyez-vous, dit-elle, que vous pourrez me retenir ? Je le tenterai, ma chère, fit-il avec un geste menaçant. Que le ciel veille sur vous, répliqua-t-elle, si vous avez le malheur de m'approcher. Et que feriez-vous, dit-il, si je démentais au contraire votre conquête, au lieu de m'en vanter pour servir votre vengeance ? Que diriez-vous si je changeais de rôle ? Allons, et ses dents se découvrirent dans un faible sourire, faisons un traité ensemble, où vous me réduirez à prendre quelques parties auxquelles vous ne vous attendez pas. Asseyez-vous, asseyez-vous. » « Il est trop tard, s'écria-t-elle, avec un regard qui semblait lancer des éclairs. J'ai jeté au vent mon nom et ma réputation. Je suis décidée à subir la honte qui s'attachera à moi. Je suis décidée à subir la honte sans avoir commis la faute. Je veux que vous le sachiez et que lui l'ignore, sans jamais pouvoir apprendre la vérité. Je mourrai avec mon secret. C'est dans ce but que je suis venu ici, vous trouver sous un faux nom, comme si j'étais votre femme. C'est dans ce but que je me suis fait voir à ces gens et que je suis resté seul avec vous. Rien maintenant ne peut vous sauver. » Il aurait vendu son âme pour l'avoir clouée immobile à sa place, dans tout l'éclat de sa beauté, pour voir ses bras tomber pendant à ses côtés et pour pouvoir s'en rendre maître. Mais il ne pouvait la regarder sans trembler. Il voyait en elle une résistance invincible. Il voyait qu'elle était hors d'elle-même et que rien ne pourrait arrêter sa haine implacable. Ses yeux suivaient la main qu'elle tenait dans son sein, avec une intention qu'il ne devinait que trop, et il pensait que si Edith, en voulant le frapper, venait à manquer son coup, elle n'hésiterait pas à se frapper elle-même. Il ne se hasarda donc pas à s'approcher d'elle, mais il recula pour fermer à clé la porte par laquelle il était entré. « Une dernière fois, dit-elle avec un sourire, écoutez mon conseil. Prenez garde à vous, vous avez été trahi comme le sont tous les traîtres. On a appris que vous êtes ici, que vous devez y venir, et que vous y êtes venu. Aussi vrai que je vis, j'ai vu ce soir mon mari passer dans cette rue en voiture. » « Misérable, c'est faux !» s'écria Carker. À ce moment, un coup de sonnette retentit bruyamment à la porte. Il pâlit en la voyant étendre la main, comme une enchanteresse qui aurait évoqué ce son. « Chut, entendez-vous » Il s'appuya le dos contre la porte d'entrée, car il la vit faire un mouvement et s'imagina qu'elle allait lui échapper. mais en un clin d'œil, elle ouvrit l'autre vis-à-vis, c'était celle de sa chambre à coucher, et la referma derrière elle. Une fois délivré de la fascination de ce regard implacable, il crut qu'il pouvait lutter avec elle. Il pensa qu'une terreur soudaine, produite par ce bruit nocturne, s'était emparée d'elle. Ce n'était pas invraisemblable, si l'on songe à sa position équivoque. Ouvrant violemment toutes les portes, il la suivit presque aussitôt. Mais la chambre était sombre, et comme Edith ne répondait pas à son appel, il fut forcé de retourner chercher la lampe. Il la souleva pour regarder autour de lui, chercha partout, s'attendant à la voir accroupie dans un coin. Mais la chambre était vide. Le salon, la salle à manger qu'il visita successivement, du pas incertain d'un homme qui ne connaît pas les êtres, était vide aussi. Ses yeux effrayés regardaient partout, fouillaient derrière les paravents et les sofas. Mais elle n'y était pas. Non, elle n'était pas non plus dans l'antichambre. Il lui suffit d'un coup d'œil pour s'en assurer. Pendant tout ce temps, les coups de sonnette se répétaient et les gens du dehors frappaient à la porte. Il posa sa lampe par terre à une petite distance et s'approcha pour écouter. Plusieurs personnes causaient ensemble. Deux au moins parlaient anglais. Et quoique la porte fût massive et qu'on fît grand bruit, il reconnut aussitôt l'une des deux voix. Il reprit sa lampe, repassa par toutes les pièces, s'arrêtant chaque fois qu'il en quittait une pour lever sa lampe au-dessus de sa tête et regarder s'il ne la verrait pas. Il était dans la chambre à coucher quand la porte qui conduisait au petit couloir frappa sa vue. Il s'en approcha et vit qu'elle était fermée en dehors. Edith avait seulement laissé tomber un voile en passant par là et l'avait pris dans la porte. Cependant, on sonnait toujours à la porte de l'escalier et l'on frappait des pieds et des mains. Il n'était pas poltron, mais le bruit qu'il entendait, la scène qui venait de se passer, ces chambres qu'il ne connaissait pas et au milieu desquelles il s'était perdu en revenant de l'antichambre, ses plans déjoués, chose étrange à dire, il aurait été plus brave si ses plans avaient réussi. Cette heure avancée de la nuit, l'impossibilité de trouver refuge près d'un ami, et par-dessus tout cette idée soudaine qui faisait battre son cœur, que l'homme qu'il avait trompé si traîtreusement allait le reconnaître, lui arracher son masque, le braver, tout cela le glaça de terreur. Il chercha à ouvrir la porte dans laquelle était pris le voile, mais il ne put la forcer. Il ouvrit une des croisées et regarda dans la cour à travers les persiennes. Mais le saut était périlleux et les pavés impitoyables. Le bruit de la sonnette et des coups frappés au dehors continuait toujours. De plus en plus terrifié, il revint à la porte dérobée, et après quelques nouveaux efforts désespérés, elle céda. Il vit l'escalier de service tout près, sentit monter la fraîcheur de la nuit. Il revint, en se glissant, chercher son chapeau et son manteau, ferma la porte derrière lui aussi solidement qu'il le put, puis la lampe à la main, il descendit en rampant l'escalier jusque dans la rue, éteignit la lumière, et l'ayant mise dans un coin, il sortit à la clarté des étoiles.